tout puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur, dans le jardin.
Les textes qui vont être utilisés pour la prédication sont dans Ecclésiaste 11, 1 à 6, dans Matthieu 24, versets 3 à 13 et 32 à 37, et puis dans 2 Timothée 3, 1 à 4. Je répète, pour ceux qui veulent lire avec nous, Ecclésiaste 11, 1 à 6, Matthieu 24, 3 à 13, 32 à 37, et 2 Timothée 3, 1 à 4. Lance ton pain à la surface des eaux, car à la longue tu le retrouveras. Donne une part à 7 ou 8 personne, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Si les nuages se remplissent, ils déversent la pluie sur la terre. Qu'un arbre tombe au sud, aussi bien qu'au nord, à l'endroit où il est tombé, il reste. Qui observe le vent ne sème pas, qui regarde les nuages ne moissonne pas. De même, que tu ignores le cheminement du souffle vital comme celui de l'ossification dans le ventre d'une femme enceinte. Ainsi, tu ne peux connaître l'œuvre de Dieu, lui qui fait toutes choses. Le matin sème ta semence et le soir ne laisse pas de repos à tes mains, car tu ne sais pas de l'une ou de l'autre activité celle qui convient, ou si toutes deux sont également bonnes.
Alors, petit rectificatif, c'est Matthieu 24, 3 à 14. Il n'y a pas la deuxième partie. Donc, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
De Timothée 3, 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rendant ce qui en fait la reniant ce qui en fait la force.
Bonjour à toutes et à tous. C'est la première fois que j'ai l'opportunité d'apporter un message le dernier dimanche de l'année civile. Pas de date liturgique, pas de fête chrétienne particulière, si ce n'est bien sûr le dimanche. Bref, un dimanche normal, sauf que c'est précisément le dernier de l'année. Et je me suis demandé comment donner une substance à la lumière de la Bible, à ce dernier jour de l'année civile. Et il m'a semblé intéressant pour aujourd'hui de parler, de réfléchir avec vous à notre relation au temps. Non pas à la météorologie, quoique, mais plutôt au temps qu'il fait. On va l'exclure pour le moment, le temps qu'il fait, mais on va s'attacher au temps qui passe. Le temps qui passe, que nous lisons sur nos montres, ou que nous voyons passer sur nos calendriers et nos agendas. J'aimerais vous poser une question. Je ne sais pas quelle réponse pourrait être donnée, parce qu'elle serait compliquée. Pourquoi sommes-nous, le 29 décembre 2013, à environ 10h30, alors que chez mon fils, notre fils, qui habite Montréal, il est 4h30 du matin. Pourquoi ? Les réponses que nous pourrions donner seraient peut-être variées, mais seraient sûrement pas exactes. Le temps qui passe nous semble être comme un grand chronomètre qui rythme nos vies. Mais si nous nous penchons un peu plus en détail sur ce que cela représente, cela devient quelque chose de difficile à saisir. Le seul mot « temps » recouvre des réalités diverses, suivant qui nous sommes, suivant ce qui nous préoccupe, et aussi, en guise d'introduction, je vais vous donner quelques-unes de ces réalités qui sont englobées sous le terme « temps ». Tout d'abord, nous utilisons souvent dans le langage courant des expressions qui laissent supposer que le temps y part, y passe, il s'écoule. Mais s'il s'écoule, il va où, n'est-ce pas ? Et peut-on réellement gagner ou perdre du temps ? Est-ce une denrée que l'on peut accumuler ou perdre ? Malgré le langage courant, j'ai choisi 5 mots descriptifs, simples, faciles à retenir, pour faire ressortir les principales caractéristiques de ce que nous appelons le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul mot en français. C'est embêtant parce que c'est des réalités très différentes. Alors, à l'origine, on a le temps divin. Le temps divin, c'est le temps astronomique. C'est le temps d'origine, la référence à tous les autres temps, les 4 autres que je vais décrire. En fait, c'est un rythme. Le temps est un rythme, une fréquence, qui concerne tout le monde, sur toute la planète, et sur lequel nous n'avons aucune prise. Dans la Genèse, au 4e jour de la création, c'est très curieux, au 4e jour de la création, il y avait déjà donc eu 3 jours avant, Dieu crée les luminaires, dont la fonction est de donner le temps. Je cite juste Genèse 1, qu'il y ait, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi, Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles, et Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. C'est assez marrant ce terme présider, présider au jour, présider à la nuit. Bon, la lune et le soleil, quand on les voit, on n'a pas trop le sentiment qu'ils sont des présidents. Mais à notre petite échelle, je peux vous dire que les présidents des cultes, notre ami Jacques en fait l'expérience aujourd'hui, ils ont toujours un petit peu le chronomètre dans la tête, parce qu'ils sentent que le temps s'écoule. Et donc, le soleil et la lune sont les astres destinés à régler un peu les rythmes et les temps. Donc cette grande horloge divine, c'est le mouvement des astres qui nous sont proches, qu'on appelle aussi la mécanique céleste, et pour nous terriens, le temps divin, le temps astronomique, est une répétition d'un mouvement dont la durée est mesurable, sans être forcément très précise, et notons bien que si nous faisons quelques kilomètres au-delà du système solaire, eh bien le temps n'existe plus. Le temps que nous connaissons n'existe plus. Il n'y a plus de jour et de nuit, plus de saisons, plus d'années, plus de calendrier. Tout ça est aboli. Et c'est donc le temps prototype, le temps qui règle tout sur la Terre. Mais il y a un deuxième temps. C'est le temps social, le temps conventionnel. Parce que c'est le temps issu de beaucoup de tâtonnements, d'efforts techniques, d'efforts scientifiques, de chicanes politiques, pour parvenir à une entente sur nos dates et sur nos calendriers et sur nos horloges. Venez devant, c'est plein de place. C'est donc le temps social, c'est le temps qui est officiel, qui n'est pas le même que le temps astronomique. Ces aspects techniques du temps social sont très compliqués, extraordinairement compliqués, bien que le but soit très simple, le but du temps social, c'est d'harmoniser, de donner, diffuser un temps, un rythme qui soit commun pour tout le monde et qui permette des relations à peu près harmonieuses entre les gens. Imaginez qu'il y a quelques années, il n'y a pas très très longtemps, la gare de Berne n'avait pas la même heure que la gare de Genève. Vous imaginez aujourd'hui ça, la pagaille extraordinaire. Pour ceux que ce problème de la mesure et de la diffusion du temps intéresse, je vous invite à aller visiter le musée L'Homme et le Temps à la Chaux-de-Fonds et vous allez voir l'acharnement qu'il a fallu pour appréhender d'abord le temps astronomique, le temps divin, le mesurer, mettre en quantité, ensuite à le normaliser, ensuite à le diffuser de manière à ce que tout le monde sache quelle est l'heure, quel est le jour. Et cela, ce temps normalisé, ce temps coordonné, ce temps social, répond à la question initiale que j'ai posée. Pourquoi nous sommes le 29 décembre 2013 et accessoirement, c'est aussi la raison pour laquelle nous changeons d'heure deux fois par année. C'est une convention, alors que la vitesse de rotation de la Terre ne change pas. Plus accessoirement encore, je me suis amusé avec un ordinateur à calculer le nombre de jours qui s'étaient écoulés depuis ma naissance il y a bien longtemps. Eh bien, le résultat d'une mesure évidemment mathématique, c'est 23 015 jours. Voilà, j'ai 23 015 jours. Il est vrai que la différence entre le temps astronomique, mouvement des astres, on ne peut rien là-dessus, et le temps social, on a l'impression que c'est la même chose. Ce n'est pas tout à fait ça, parce que le calendrier a changé plusieurs fois, on a modifié les dates, et si on avait suivi très strictement le mouvement des astres, on ne serait pas du tout le 29 décembre 2013. Je me souviens dans ma jeunesse avoir bricolé un télescope astronomique, un instrument pour regarder un peu les astres, et cet instrument, pour être bien utilisé, doit être mis en rotation à la vitesse de la Terre. Si on fait pas ça très bien, les étoiles partent dans le champ, on n'y voit rien. Et j'avais buté sur un problème technique qui illustre la différence entre le temps divin et le temps social. C'est qu'il fallait alimenter le moteur qui faisait tourner ce télescope. Il fallait l'alimenter par un transformateur de temps. Il fallait construire un transformateur de temps. Et ça m'avait intrigué. Et ça m'est un peu resté. Vous voyez, ça ressort maintenant. Mais je veux dire, le temps social, le temps astronomique, c'est deux choses différentes. Troisièmement, le temps historique, c'est le temps que l'on utilise dans le langage courant pour qualifier une période ou une époque qui contient une particularité, qui contient un élément, disons, cohérent. Par exemple, le temps des cathédrales, au temps des Romains, ça caractérise une époque, ça caractérise aussi une durée. Ensuite, quatrièmement, le temps biologique. Le temps biologique, on se rend pas compte, mais c'est un espace limité qui est aussi qualifié d'horloge biologique. L'horloge biologique, c'est la vitesse du métabolisme d'un être vivant. Par exemple, la croissance ou le vieillissement. Alors ça, je laisse les médecins en parler. Ils seront beaucoup plus à même que moi de le faire. Mais on a une horloge biologique qui nous fait vieillir, croître et vieillir dans notre corps. Et cinquièmement, dernier, le temps subjectif, le temps que l'on ressent, c'est notre manière de vivre le temps divin et le temps social, raison de nos stress, raison de nos énervements, raison de nos tentatives de maîtriser le temps. Hein, je n'ai pas le temps, il faut prendre le temps, hein, inutile de dire que ce temps personnel, il est tout à fait subjectif, il est à géométrie variable. Si nous vivons un instant délicieux, le temps paraît court. Si nous attendons le 14 sous la pluie, le temps nous paraît long. Je dis le 14 parce que on en est proche, mais l'ambiance modifie la perception du temps. Venons-en à ce qui nous intéresse le plus. Comment Dieu, dans la Bible, nous instruit sur le temps? On a fait déjà cette allusion à la Genèse. Il faut associer le temps à une pensée fondamentale que Dieu nous donne, que Dieu a mise dans le cœur humain, la pensée de l'éternité, la pensée d'un endroit où le temps n'existe plus. On peut très bien faire et comprendre cette allusion à la sortie du système solaire où il n'y a plus de rythme, comme ceux qui nous sont connus. Le psaume 90 dit « Apprends-nous à bien compter nos jours ». Qu'est-ce à dire? à bien compter nos jours, c'est certainement pas faire le décompte que j'ai fait pour mes jours, parce que ce serait pas très utile, si ce n'est pour la reconnaissance de la durée d'une vie écoulée. Mais si l'on fait des recherches sur les cadrans solaires, je me suis demandé si parmi vous, il y avait des gens qui habitaient des maisons, notamment souvent dans des villages. On voit contre une église, contre une ferme, contre une maison personnelle, un cadran solaire. Il y en a beaucoup dans le sud de la France en particulier. Et ces cadrans solaires, bon, sont des plaques orientées contre le sud avec un cadran qui est gradué, un stylet, petit bâtonnet, qui projette l'ombre et qui indique l'heure du soleil. Qui indique l'heure, on peut dire. Et on voit un phénomène intéressant. Sur les cadrans solaires, qui, par la force des choses, se dérèglent d'eux-mêmes, c'est pas grave, parce que c'est pas des horloges de précision, mais ils indiquent l'heure solaire, ils indiquent pas l'heure sociale. Et donc, ils sont souvent associés à une gravure d'un, je dirais, un petit mot d'ordre, une petite devise. On voit, par exemple, une devise qui est une interpellation pour le passant. Le passant regarde le cadran solaire et il voit, si possible, l'heure. Moi, je n'arrive pas toujours à la lire, mais il voit une petite devise que le cadran solaire lui adresse. Alors, je me suis intéressé à lire cela, j'en ai lu une centaine. Et la plus classique, c'est « Tempus fugit ». Il paraît que ça veut dire en latin « le temps fuit ». Intuitivement, on peut comprendre « le temps fuit ». Devise qu'on peut voir aussi sur les montres de parquet, les grandes montres que vous avez dans vos salons. Et je me disais, mais quelle devise mettrions-nous sur un cadran solaire, nous en tant que croyants? Je vous en cite quatre qui ont retenu mon attention dans toutes ces devises que j'ai lues. L'heure fuit, l'éternité approche. Une autre, c'est l'ombre qui parle, le stylet qui parle, l'ombre projetée. Je vais et je reviens chaque jour. Tu vas et tu ne reviens pas. Ça laisse à penser que ça c'est cool, hein? Et une autre que nous connaissons tous par cœur, tenez-vous prêt, le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Et une dernière, sans le soleil, je ne suis rien. C'est le stylet qui parle, hein, puisque c'est l'ombre qui est en jeu. Sans le soleil, je ne suis rien. Toi sans Dieu, tu n'es rien. Ces petites citations évoquent l'éternité, l'au-delà, le fait que la vie humaine est fragile, passagère. Et en y réfléchissant, nous pouvons penser que, en réalité, nos jours, les jours qui nous sont destinés, sont à considérer comme des récipients que Dieu nous donne, avec la question implicite, que transportons-nous dans ces récipients? Et pour qui? Est-ce une espérance? Est-ce une grâce? Est-ce une consolation? Est-ce un encouragement? Est-ce un témoignage? Est-ce une aide matérielle? Est-ce un humble service pratique? Est-ce notre simple présence aimante et silencieuse? Donc en somme, si on s'extrait un tout petit peu de notre mécanique céleste, ce n'est pas le nombre, mais le contenu de nos jours qui compte. D'autant plus si nous sommes chrétiens. Roger Sewell nous donnait un message fort intéressant le 1er décembre dernier, basé sur les généalogies de Jésus, l'histoire, les antécédents de Jésus. Et sur un plan général, plan de l'histoire, on a l'impression que Dieu a un agenda. Vous lisez tous la Bible et vous voyez que on a le sentiment qu'il y a des temps prévus, des cases réservées pour certains événements. Nous voyons souvent dans l'Évangile Jésus qui dit qu'un événement est arrivé afin que telle parole soit accomplie, par exemple. Donc, Dieu met à son agenda des temps et des événements associés pour réaliser ses projets. Demeure un problème pour nous, c'est que si Dieu possède l'agenda des événements passés et à venir, Il ne nous dit pas toujours les dates. Il ne nous communique pas toujours les dates. Il nous associe à ce qu'il fait, mais sans nous donner l'horaire. Ou alors, c'est lui qui impose l'horaire, mais parfois, il nous laisse déterminer l'horaire. Par exemple, Dieu donne des précisions très claires qui relèvent pour nous du temps social, l'année, le mois, le jour, voire l'heure, pour certaines choses qu'il ordonne. Il manque juste les minutes, les secondes et les centièmes pour des gens comme nous. Mais relisez le chapitre 23 du Lévitique, relatif aux saintes convocations, aux fêtes de l'Éternel. Vous allez voir les précisions que Dieu donne sur des rendez-vous qu'il a donnés à des êtres humains. En revanche, de nombreux textes, dont ceux que nous avons lus tout à l'heure, exhortent les croyants de tous les temps à être vigilants et attentifs à des temps qui ne ressortissent pas de la chronométrie, qui ne ressortissent pas d'une date, d'un jour et d'une heure, mais plutôt du temps historique ou du temps personnel, au sens où nous les avons décrits tout à l'heure. Exemple, racheter le temps, car les jours sont mauvais, Éphésiens 5, ce qui peut s'entendre comme une exhortation à mettre à profit toutes les occasions qui se présentent pour témoigner l'espérance qui est associée au nom de Jésus. Il s'agit donc de la gestion du temps individuel, mais évidemment, on peut penser à ces jours récipients, ce contenu de nos vies que l'on donne sans savoir exactement à qui il profitera le plus. On se trouve là confronté à cette très curieuse exhortation de l'Ecclésiaste que nous avons lue. « Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps ou à la longue, tu le retrouveras. » Ça me fait penser au pain qu'on donne aux cygnes, hein, vous savez. On jette et les cygnes le mangent. Bon, c'est peut-être pas tout à fait ça ici, mais il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Il y a un facteur qui nous échappe, que Dieu maîtrise, qui est celui du temps, et qui nous est donné comme support à notre témoignage. Le pain pourrait figurer une parole, certes, mais pourrait figurer aussi, par exemple, notre argent, ou notre parole de bénédiction, ou notre attitude. Enfin, jeter notre pain, c'est jeter un peu ce qui nous fait vivre, le donner, le transmettre, et d'une manière qu'on ne sait pas la durée. Il faut utiliser notre temps à bon escient, sans toujours savoir quel impact aura ce que nous faisons. Le plus vient de Dieu. Nous, on fait le mieux possible. Mais le plus, ce qui donne la substance, c'est Dieu qui le fait. Et enfin, l'exhortation à demeurer vigilant, aussi autre exemple, pour ne pas nous laisser surprendre par exemple, le jour du Seigneur, expression date inconnue. Jour du Seigneur, il s'agit pour les croyants de demeurer dans une vigilance de tous les instants, pour ne pas être surpris, peut-être par la visitation personnelle du Seigneur, mais aussi par l'avènement glorieux du Seigneur. Ce qui peut nous intriguer à bon escient, ce sont ces mentions de temps, précis quant à leur contenu, mais indéfinis quant à leur date. Exemple, j'ai fait une petite statistique que je vous livre. Le jour de l'Éternel, 14 mentions. Le jour où l'avènement du Seigneur, 22 mentions. Le jour du jugement, 13 mentions. La fin des temps, la fin du monde, 5 mentions. On rejoint et on comprend les disciples qui, dans notre second texte, demandent à Jésus de leur dire avec un minimum de précision, mais quand va venir, quel est le jour de ton avènement, quand vas-tu enfin venir dans ta gloire, le royaume de Dieu, l'avènement du Christ, quand t'apparaîtra-t-il? Et à leur suite, ce n'est pas la seule interrogation que nous avons. L'avènement du Christ, bien sûr. Mais quand on nous parle des temps de la fin, quelle est la date? Quelles sont les dates? De la naissance de Jésus à son avènement, certainement, mais ça fait quand même 2000 ans que ça dure. La date du temps de la fin, hein, la fin du temps des nations, le temps des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. On peut imaginer que c'est le 5 juin 1967, lorsque Jérusalem n'a plus été comme on dit, foulée aux pieds par les nations, mais ça fait quand même bientôt 50 ans que ça dure. Quelle est la date d'apparition de la bête et du faux prophète de l'Apocalypse ? Date inconnue. Et enfin, on n'ose presque pas l'évoquer, tellement ça a l'air secret, mais la question est quand même au fond de nos cœurs, à quelle date même approximative le Seigneur Jésus reviendra-t-il ? Si cette question n'est pas au fond de nous, alors on est peut-être malheureux. Jésus insiste sur le fait que ce n'est pas la date qui est importante. Il déclare même qu'il ne la connaît pas lui-même, ce qui est très frappant. Enfin, il le dit. Et ce qui est important, c'est le discernement des signes annonciateurs. Même si le jour Ij arrive à l'improviste, il sera précédé de signes indicateurs pour ceux qui sont vigilants et qui ne seront pas surpris. L'instruction donnée par Jésus ne relève pas du calendrier, mais d'une ambiance politique et sociale. Si Jésus avait donné une date, c'eût été une catastrophe, à cause de notre tendance naturelle à attendre la der des der pour réagir et en général même louper l'événement. Le discernement des signes des temps, c'est le discernement des événements sociopolitiques, spirituels, astronomiques même, voire météorologiques, annonciateurs de celui qui était, qui est et qui vient maintenant. Reste à ne pas confondre entre nos hypothèses humaines, la vraisemblance, les déductions, et la révélation prophétique de Dieu. Efforçons-nous de distinguer entre ce qui est écrit en clair et en message codé dans la parole. Parce que dans la Bible, il y a des messages codés, tout n'est pas clair. Par exemple, les allusions à la bête, au faux prophète, à Babylone, au chiffre 666 que nous voyons dans l'Apocalypse, c'est pas si clair que ça. Et si vous regardez les innombrables spéculations qui existent là-dessus, c'est absolument fascinant. Mais il serait faux et dangereux de nous focaliser que sur les spéculations au détriment de ce que la parole nous indique clairement. Je ne résiste pas à la tentation d'en dire deux mots avec la vigilance requise. Soyez mes juges, je vais vous donner un exemple de spéculation pour qu'on comprenne bien où je veux en venir. Un juif messianique, Mark Biltz, de El Shaddai Ministries, a publié une investigation très intéressante à mon goût sur les signes des temps et relatif à l'obscurcissement du soleil et au fait que la lune devient rouge sang. L'auteur s'adapte à démontrer comment on peut interpréter la parole qui dit « il y aura de grands signes dans le ciel » immédiatement avant l'apparition glorieuse de Jésus. Alors il analyse la fréquence des éclipses de lune et de soleil. L'éclipse de soleil est un obscurcissement du soleil, en somme. L'éclipse de lune est un assombrissement de la lune qui devient rougeâtre. Et il regarde la fréquence de ces phénomènes avec l'interprétation que les Juifs en ont toujours donnée sur le plan théologique et historique. Et il montre que des phénomènes tout à fait extraordinaires vont avoir lieu en 2014 et en 2015. Et ces phénomènes objectifs, parce que j'ai été voir le site de la NASA et différents sites qui montrent que ces phénomènes, oui, arriveront, ces éclipses particulières, elles lui permettent de faire le calcul, mais ça, c'est la spéculation, que l'avènement du Seigneur concordera avec la fête du Yom Kippour en septembre 2015. Étant donné que la fête de Yom Kippour dure deux jours, l'auteur dit, alors on ne sait pas le jour, ni l'heure. On ne sait ni le jour ni l'heure, mais on connaît l'époque. Je trouve intéressant, parce que si on dit toujours, on ne peut pas le savoir, finalement, on s'attend à plus rien. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir le jour et qu'on ne peut pas savoir l'heure, bien sûr. Mais on est chargé de discerner les signes des temps concernés, pour ne pas être surpris. Donc, On va s'arrêter là avec juste un mot de conclusion sur les signes des temps les plus imminents. D'abord, une ambiance qu'on commence vraiment sérieusement à voir, un individualisme forcené, le déclin des mœurs, totalitarisme financier. Il y aura bien un temps où on ne pourra plus acheter ou vendre librement. Une agressivité sociale en augmentation, les hommes se haïront les uns les autres. Des signes dans le ciel, alors, ok, j'en ai déjà parlé, éclipse, phénomène climatologique. Réveil spirituel mondial, certainement avec apparition de faux Christ, apparition de gourous, apparition de faux messies ou de leaders qui se feront prendre pour Dieu. Évangélisation du monde, on est bientôt au bout, l'évangile est bien diffusé. Conversion des juifs à Jésus, ça doit encore venir ça. Conversion des juifs à Jésus est signe probablement imminent. Et dans l'intervalle, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons à lire les prophètes, lire les épîtres, ne pas paniquer. Dieu garde le contrôle des événements. Si possible, avertissons nos semblables. Ayons confiance, relevons la tête, car la délivrance, au sens peut-être d'accouchement, arrive. La confiance en Dieu, cette confiance en Dieu, me permet de vous souhaiter à toutes et à tous une belle année 2014. Que le Seigneur nous aide à discerner les signes de sa prochaine venue. Amen.